à Voigny. Cette semaine, Maëlys Bessery rencontre Alain Duhamel. Ce soir, Duhamel avant Duhamel.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes chez vous, rive gauche à Paris, près du lieu dans lequel vous avez fait vos études et enseigné, Sciences Po. Et pourtant, vos origines familiales nous amènent en Picardie et en Normandie où vous êtes né, pris dès le berceau, pourrait-on dire, dans les soubresauts de l'histoire.
Oui, puisque je suis né en pleine débâcle. Le jour où je suis né, c'est-à-dire le 31 mai 1940, c'est exactement le moment où l'armée française s'effondrait littéralement et où des millions de gens essayaient de quitter le nord de la France pour aller vers le sud et vers, disons, un apaisement provisoire. Bon, et alors mes premiers souvenirs réels sont des souvenirs de guerre. Et j'ai toujours pensé que avoir traversé des guerres ou pas, ça modifie, ça modèle de façon très différente les générations. Moi, mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs de bombardements, c'est des souvenirs de fuite pour aller dans des abris, c'est des souvenirs de l'armée allemande remontant du sud vers le nord quand les choses allaient plus mal pour eux et tirant sur tout ce qui bougeait. Et au fond, ensuite, il y a eu les guerres coloniales. D'abord l'Indochine, qui a quand même beaucoup marqué, puis l'Algérie, ce qui fait que avoir traversé un univers de guerre est différent d'avoir vécu toujours dans une période de paix, même si les périodes de paix sont pas forcément des périodes de prospérité ou de bonheur, bien entendu. Mais ça n'est pas la même chose.
Alors c'est aussi d'une certaine manière participer, en tout cas vivre un événement historique, en être le témoin, même si on est enfant. En l'occurrence, vous parliez de la débâcle, vous êtes né à Caen, vous avez passé vos premières années à Évrecy, près d'Évrecy, dans la maison familiale.
Alors oui, au début j'étais à Évrecy dans la maison familiale, mais ma mère, qui était comme beaucoup de Picards, ultra-patriote, etc., n'a pas supporté que un état-major divisionnaire allemand vienne s'installer dans la maison et a refusé tout de suite de partager la maison avec eux. Donc on est parti, on a été à Cholet, qui n'était pas très loin, mais enfin qui était, disons, aux limites de la Vendée.
Alors pendant justement cette période, votre père, lui, est engagé?
Mon père, il était très patriote, c'est normal d'ailleurs. Et donc, il était en 40, il était, comme il était médecin, il était lieutenant. L'originalité, c'est que il était encore à la tête d'une ambulance hippomobile. Et donc, il a fait la guerre complètement à cheval sur un petit arabe blanc. On a des photos. Bon, ma mère était très réticente parce qu'elle se retrouvait avec, à l'époque, déjà 3 enfants avant d'en avoir 5. Mais lui, évidemment, il s'est engagé dès qu'il a pu dans l'armée de Delattre.
Dans l'armée de Delattre, du coup, vous êtes séparé de votre père pendant la guerre, que vous retrouverez à la fin de la guerre.
Oui.
Et près de Paris, vous allez vous installer...
Oui, au Perreux.
Au Perreux.
Oui. Mon souvenir de lui à la libération, donc à la fin de la guerre, c'est de le voir arriver par une petite porte en métal. Il y avait une grande grille puis une petite porte, donc par la petite porte, en uniforme avec un chien berger allemand qui est ramené d'Allemagne. Et ben, ça fait une drôle d'impression. C'est vraiment mon premier grand souvenir de lui.
Cet épisode de la guerre, ça va non seulement marquer votre enfance, mais aussi permettre au fur et à mesure de votre adolescence d'éclaircir un peu les questions qui se sont posées pour la France à cette période, les origines aussi politiques de chacune de vos familles. Il y a maternelle plutôt radicale, de lignée radicale.
Oui. Enfin, de ligne radicale à l'ancienne, hein. C'est-à-dire c'était des laïcs libéraux plutôt progressistes socialement. C'était la bourgeoisie progressiste. Et du côté de mon père, c'était la bourgeoisie conservatrice. Les deux familles ne se supportaient pas, ne s'aimaient pas du tout et se voyaient le moins possible, bien entendu. Mais du côté de ma mère, c'était de la bourgeoisie de négociants, parce qu'ils venaient d'Abbeville, qui était une ville de marché au Moyen-Âge. Donc c'est une famille de négociants très anciens. Donc ils avaient, au XVIe siècle, déjà participé à la vie de la commune. Ils avaient été édiles locaux, etc. Ils étaient l'aile gauche de la bourgeoisie à Abbeville. Ils étaient assez connus. Ils étaient socialement progressistes, c'était des bourgeois progressistes. Bon, et du côté paternel, au contraire...
Avec une parenté protestante ?
Absolument, absolument.
Du côté maternel.
Vous savez, du côté maternel. Et du côté paternel, au contraire, c'était une bourgeoisie catholique, conservatrice, traditionnaliste, avec beaucoup de, au 19e siècle, beaucoup de magistrats, enfin bien avant le 19e siècle d'ailleurs, sous l'Ancien Régime déjà, beaucoup de magistrats et puis des officiers, puis cette race bizarre qui a disparu avec la guerre de 14, de rentiers, des gens qui vivaient de leur rente, ce que je trouvais, quand j'avais 10 ans, je trouvais ça extrêmement choquant.
Alors est-ce que justement cette parenté d'un côté plutôt radical, en tout cas social-démocrate et plutôt démocrate chrétienne de l'autre, est-ce que ce sont un peu les deux France, en tout cas deux types de bourgeoisie et d'origine politique assez différentes qui se croisaient dans votre famille?
Oui, c'est tout à fait ça. Mais en revanche, dans ma famille, il y avait des conversations politiques sans arrêt. Vraiment, la politique, on en parlait beaucoup, on en parlait librement. Moi, j'en ai parlé, je sais pas, à partir de l'âge de 7 ans sûrement. Et à partir de l'âge de 10 ans, et avec les défauts que j'ai, qui sont bien connus, j'avais tendance à vouloir arbitrer entre les adultes, que je trouvais quand même pas toujours assez au courant des choses.
Alain Duhamel, c'est justement tendances politiques qui se croisaient dans votre famille. Elles se sont aussi illustrées de manière différente pendant la guerre. Vous en avez parlé dans votre livre « Le journal d'un observateur », discrètement d'ailleurs. Vous parlez d'un grand-père paternel discrètement maréchaliste, avec cette anecdote de la photo qui peu à peu va migrer du salon au grenier.
Oui. Les deux familles se sont comportées finalement de façon assez cohérente avec leurs origines et leurs traditions. Mon grand-père paternel qui était magistrat, Dieu merci, n'a rien fait de répréhensible professionnellement, alors que c'était un gros risque pour les magistrats pendant l'État français d'avoir à faire des horreurs. Bon, ça n'a pas été son cas, Dieu merci. Mais il était maréchaliste, comme ont été beaucoup de gens. Et donc, pour lui, Pétain, c'était l'ordre, la légitimité, etc. Et du coup, il y avait un portrait qui était dans un beau cadre que moi, j'ai connu tout à fait à la fin de la guerre dans un salon. Et puis que ensuite j'ai vu émigrer à la Libération plus discrètement dans un couloir. Et puis qu'après, s'est retrouvé dans un grenier. Et du côté de ma mère, c'est absolument l'inverse. Mon grand-père, son fils était résistant. Même mon grand-père a eu des responsabilités relativement importantes, puisqu'il présidait ce qui a été le comité de libération du 7e arrondissement à Paris, et que à l'issue de la guerre, au moment de la libération de Paris, il a pris la tête des groupes qui étaient dans son arrondissement, et que pour les premières élections législatives qui ont suivi, tous les partis politiques lui ont proposé d'être le député. Ça l'intéressait pas du tout, mais c'est difficile d'avoir eu des comportements plus divergents que les deux familles.
Alors du coup, il y a eu chez vous assez tôt, Alain Duhamel, ce goût pour l'histoire, non seulement pour en avoir vécu une partie, mais aussi pour avoir eu des discussions importantes dans votre famille, notamment maternelle, sur ces questions-là.
Oui, parce que quand j'étais enfant, je passais beaucoup de week-ends chez mes grands-parents, donc qui à l'époque habitaient à Paris, et leur appartement était meublé de livres d'histoire, notamment d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Et moi, je passais mes week-ends à lire des livres d'histoire et à en parler avec eux. Et donc, avant d'avoir 10 ans, j'avais l'habitude de me plonger dans les livres d'histoire. Et c'est une passion qui m'a toujours submergé. Et j'ai toujours pensé en plus qu'on ne comprend la politique française vraiment que si on connaît non seulement l'histoire, mais bien la littérature française. Que les trois choses, l'histoire, la littérature et la politique, sont inextricablement liées. Que c'est un peu vrai dans tous les pays, mais que c'est particulièrement vrai en France, parce que la littérature y tient proportionnellement plus de place, parce que les intellectuels ont un écho qu'ils n'ont pas dans d'autres pays, et que c'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre les choses. Et donc, pour moi, depuis toujours, l'étude de l'histoire, la passion pour la politique et la littérature, c'est un entrelac.
Et parce qu'aussi, peut-être, la manière de forger une opinion politique, elle vient aussi de tout cet imaginaire historique, politique que l'on a pu construire enfant. Il y a eu le fait de aussi, chez vous, assister aux funérailles du maréchal Leclerc. Vous y avez été emmené justement par ses grands-parents que vous voyez le week-end.
C'était mon premier grand souvenir politique. Les funérailles du général puis maréchal Leclerc, ça a été quelque chose de très spectaculaire. Il y avait tout Paris dans les rues. Et à cette occasion, c'était un peu une démonstration, disons, de patriotisme qui se croyait de gauche. Et c'est comme ça que j'ai vécu.
Avec cette ambiguïté, justement.
Oui, bien sûr. Mais j'ai assez vite compris quand même qu'il y avait des ambiguïtés politiques, qu'il y avait un biais politique, qu'il y avait d'une part une histoire patriotique, et puis qu'il y avait d'autre part une histoire politique partisane, bien sûr, que les deux s'enchevêtraient. Mais j'étais sensible à ça, évidemment, plutôt que ça n'est le cas d'ordinaire. Mais ça, ce sont les hasards familiaux qui ont fait ça.
Alain Duhamel, c'est aussi comme ça, la question de comment est-ce qu'on se forge une opinion politique en partant d'origine familiale et petit à petit en évoluant. Pour vous, cette question, elle s'est croisée aussi d'abord avec la question religieuse. Vous étiez d'une famille de tradition catholique pas tellement pratiquante. Et puis, il y a eu cette anecdote du meilleur catéchumène.
Oui. Ma famille paternelle était très catholique, pratiquante, traditionnaliste, mais même avec des responsabilités. Quand mon grand-père est mort, il est mort très jeune, paternel, sa femme est devenue plus ou moins vice-présidente nationale d'un truc qui à l'époque était très important, que je pense que maintenant a disparu, qui était l'Union ou l'Association des femmes catholiques de France. Elle me racontait toujours qu'elle jouait au bridge une fois par semaine avec l'évêque, le préfet et le général. Bon, ça a l'air de sortir d'un livre d'images, mais je crois que c'était vrai. Bon, et au contraire, la famille maternelle était des laïcs, quelquefois protestants, et toujours libres penseurs, ça c'était clair. Et chez moi, mon père était catholique pratiquant, mais vraiment sans plus. Ma mère, pas catholique du tout, ne pratiquant pas du tout. Et bon, il s'est trouvé que j'ai suivi la formation classique, et puis qu'il y avait un concours organisé par l'archevêque de Paris pour les catéchumènes les plus valeureux, que la paroisse de mon père a décidé de me déléguer, donc j'ai été passer ce petit concours, et donc je me suis retrouvé dans une espèce d'immense sacristie, très belle d'ailleurs, puis un jury de 3 personnes. On m'a interrogé pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais interrogé de façon assez serrée quand même. Et j'avais à peine fini de parler qu'un des deux chanoines a dit « cet enfant est protestant ».
Une graine de protestant.
Ah oui, et alors le curé de ma paroisse qui m'accompagnait a blémi. Et moi, je suis rentré chez moi en disant « je suis protestant et je serai protestant ». Bon, ma mère m'a dit « va faire des mathématiques, je crois », ou quelque chose comme ça. Et mon père m'a dit « ne plaisante pas », mais enfin, c'est passé tout à fait de façon quasi insignifiante. Et alors, j'avais 11 ans ou 10 ans, donc dans ces cas-là, on est un petit peu naïf quand même, mais j'ai fait une espèce d'identification, je me suis passionné pour le protestantisme, j'ai lu ce que je pouvais lire à mon âge, enfin j'en ai lu pas mal, et donc j'ai décidé que je serais protestant et calviniste. Bon, puis il s'est trouvé qu'en plus, je me suis marié avec une protestante, alors d'une famille qui était protestante depuis la naissance du protestantisme en France, et qui venait d'une région qui est la région probablement la plus calviniste qui était dans les Cévennes. Et puis, par goût, alors là, personnel, bien sûr, je me suis intéressé à Zwingli, qui n'est pas la personne la plus célèbre en France, mais qui a joué un rôle important au moment de la réforme en Suisse, et qui avait comme originalité de vouloir réconcilier le protestantisme naissant avec l'humanisme, ce qui n'était pas le cas de tous les protestants, ni de cette époque, ni toujours d'aujourd'hui. Bon. Et moi, la réconciliation de Zwingli et d'Erasme, pour moi, voilà, c'était mon équilibre, j'étais content comme ça, puis je me sentais, alors, je n'en parlais jamais en famille. Je n'ai jamais dit un mot à mes frères et sœurs.
On dirait que c'est un secret presque amoureux que vous gardiez avec le protestantisme.
Et je n'en parlais pas à mes parents. J'en ai parlé un petit peu à mes grands-parents maternels, qui ont été très compréhensifs. Et ma grand-mère maternelle, qui était très intelligente, a eu un bon réflexe. Elle m'a offert toute une série de livres de Renan en me disant « ça te permettra de comprendre beaucoup de choses ». Je pense que dans sa tête, ça voulait peut-être dire, et peut-être que tu te détacheras aussi du protestantisme, mais elle était assez maligne pour ne pas me le dire, ça.
Cette découverte, justement, ce déclic religieux, un peu plus tard, il va y en avoir un autre. C'est un déclic politique, en tout cas une forme de prise de conscience. Et ça arrive en 1955, Alain Duhamel. Justement, vous découvrez Mendès France à la tête du Front républicain.
Oui, parce que en 55, c'était les soubresauts de la fin de la 4e République qui s'annonçait. Il y avait eu le gouvernement Mendès France qui, moi, m'avait enthousiasmé, qui avait agacé beaucoup mon père, qui avait enchanté ma mère et qui, moi, j'avais trouvé que c'était extraordinaire. J'écoutais beaucoup la radio, À l'époque, on disait la radio nationale encore.
Vous lisiez les journaux ?
Oui, les journaux, les
le
débats.
Figaro,
les
le
débats,
Figaro
non,
familial,
non, mais à la radio, les débats, puis il y avait le Figaro, jusqu'au moment où j'ai imposé à mes parents, ce qui était une des révolutions de palais, le remplacement du Figaro par Le Monde quand j'avais 14 ans. Mais alors, en revanche, en écoutant la campagne législative, puisque les élections ont lieu en janvier 56, donc la campagne législative en 55, là, je me suis vraiment pris de passion pour Mendès, parce que d'abord, il avait fait quelque chose quand il était au gouvernement, ce qui n'était pas donné à beaucoup de gouvernements de la 4e République, ni d'ailleurs de la 5e. Mais en plus, il avait une façon de s'expliquer qui était méthodique, rationnelle, construite, précise, sans mentir, sans jamais de démagogie. Et ça, ça m'enchantait absolument. Et donc, mon grand homme, quand j'ai eu 15 ans, et ça n'a pas changé, c'était Pierre Mendès-France. Et il s'est trouvé que j'ai eu la chance par la suite de très très bien le connaître. C'est-à-dire que je crois que c'est dans cette pièce où nous nous trouvons qu'il a dû avoir le dernier dîner à l'extérieur, que quand il était très malade, il me demandait de relire ses manuscrits avant de les envoyer chez Gallimard, et qu'on s'est beaucoup vus.
Alors il y a eu Mendès France et puis parallèlement à votre histoire personnelle, en France il y a eu beaucoup d'étapes politiques à cette période-là et en 58, nouvel événement historique, De Gaulle présente sa nouvelle constitution le 4 septembre. Et là vous êtes pris entre votre élan mendésiste et en même temps vous êtes assez d'accord avec ses choix institutionnels finalement.
Oui,
les choix gaulliens.
Ça a été là pour le coup la première circonstance vraiment historique à laquelle j'ai assisté physiquement, personnellement. Alors en plus, c'était une période comme j'avais eu un accident très grave, j'étais pas physiquement flambant, mais malgré ça, j'étais parti de chez moi le matin à 6h du matin pour être sûr d'être parmi les premiers arrivés place de la République, parce que il y avait évidemment les invités officiels qui étaient derrière des barricades, des balustrades, et puis la foule, c'était qui arrive les premiers. Et moi, j'ai pu me faufiler puisque j'étais parmi les premiers, donc tout contre la balustrade et vivre vraiment ça. Et ce que le général de Gaulle a dit, moi, me paraissait, au fond, la thérapeutique à ce que j'avais compris de la 4e République.
Et de ses échecs.
Et de ses échecs institutionnels, son instabilité, son inefficacité, son incapacité à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. C'est ça, c'était l'histoire de la 4e République, qui, par ailleurs, a fait des choses pas mal du tout. La reconstruction, le modèle social, etc. Ça a vraiment été construit à cette époque. Bon, mais qu'il y avait... pathologiquement instable. Il y avait quelquefois trois gouvernements différents dans l'année, avec trois présidents du Conseil. Bon, et donc le général de Gaulle m'a tout à fait convaincu. Et en même temps, je savais que Pierre Mendès-France était très inquiet de ce qui pouvait se passer, craignait une dérive autoritaire du régime. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que les débuts du régime ont été assez autoritaires. Mais lui craignait pour le dépérissement de la démocratie en France. Et donc j'étais un peu ballotté entre mon approbation spontanée de ce que j'entendais dire sur le plan institutionnel par le général de Gaulle, et puis ce que j'entendais de Pierre Mendès-France, qui était quand même extrêmement réticent.
Alain Duhamel, au moment où justement votre pensée politique commence à se structurer, il y a, vous venez d'y faire allusion, cet accident très grave à l'âge de 17 ans, qui vous immobilise pendant presque 2 ans,
oui,
et qui va être fondateur pour vous parce que il va renforcer un élément très présent, c'est-à-dire la lecture.
Oui, cet accident, bon, il a vraiment failli me coûter la vie puisque je m'en suis tiré par miracle. Et parce que je suis d'une famille de médecins et que j'ai été particulièrement bien soigné avec une technique qui était toute nouvelle, etc.
C'est un accident de voiture ?
Oui. J'étais pas au volant. Je me suis fait écraser. Et donc, ça a été très douloureux parce que pendant 2 ans, je n'ai effectivement rien pu faire. Donc, en clair, j'ai gâché mes études. Mais je considère après coup que ça a été une grande chance. Parce qu'effectivement, la seule chose que j'ai pu faire pendant 2 ans, pratiquement, c'était de lire. J'ai lu sans arrêt. J'ai lu 10 heures, 12 heures par jour.
Vous avez lu des ouvrages de sciences sociales, de sciences humaines, mais
oui,
aussi de la littérature.
J'ai lu des choses qui n'étaient pas tout à fait de mon âge. Donc effectivement, j'ai lu à la fois beaucoup de littérature, bien sûr,
Vous avez lu Balzac, vous avez lu Stendhal.
Oui, bah, j'ai dévoré évidemment les grands auteurs français. Et puis tout le monde m'alimentait en livres. Alors ma grand-mère, qui était anglophone et anglophile, m'apportait tous les grands textes anglais. Et par goût, alors d'une part, j'ai lu énormément de livres d'histoire, et d'autre part, je me suis mis un peu à la sociologie, à l'économie, avec des textes que je ne comprenais pas forcément.
Alors, il y a eu Tocqueville, il y a eu Aron.
Oui, alors, bon, Tocqueville, je ne comprenais pas tout, mais en revanche, j'en absorbais une partie. Aron, ce que j'en lisais était tellement limpide que j'avais le sentiment de bien le comprendre, même si après, je me suis quelquefois rendu compte que c'était plus subtil que je ne l'avais imaginé. Mais, enfin, tout ça m'a marqué. Et puis surtout, j'avais, si j'ose dire, un retard physique. D'ailleurs, ma croissance s'était interrompue net, etc. J'avais un retard physique et j'avais une avance intellectuelle. Ça créait un peu un déséquilibre, mais au bout du compte, je considère que ça a été une chance.
Alors, suite à cet accident, vous finissez vos études, puis vous décidez de faire Sciences Po après avoir hésité Alain Duhamel, après avoir aussi résisté à des choix familiaux qui vous orientaient plutôt vers la tradition de la magistrature d'un côté ou de la diplomatie de l'autre.
Oui.
Vous rentrez à Sciences Po en 1960.
Oui.
Là, vous rencontrez deux grands professeurs et il va être question de faire un stage.
Oui, parce que à la fin de la première année de Sciences Po, on avait 3 mois de vacances et mes parents, qui ont toujours été en faveur du travail et du labeur constant, m'ont dit qu'il me fallait que je fasse un stage. Et alors il y avait un grand-oncle de ma mère qui était président d'une société pétrolière. Ma mère m'a dit, tu vas aller passer un mois chez BP France. Et je lui ai dit non. Et ma mère a eu une réaction intelligente. Elle m'a dit, écoute, si tu trouves autre chose qui te plaît davantage, d'accord. Et si tu ne trouves rien, tu le feras quand même. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le rédacteur en chef du Monde, qui était Jacques Fauvet, qui ensuite sera le directeur, qui m'a pris au téléphone. Mais ça, je ne me fais pas d'illusions, c'est à cause de mon nom. Donc je disais, ça me dit quelque chose. Ses enfants disputaient des tournois de tennis en même temps que mes frères, donc les mères se connaissaient un peu. Donc il m'a pris au téléphone et il m'a dit, écoutez, vous tombez bien, le stagiaire qui devait commencer demain s'est cassé la jambe, écoutez, commencez demain. Et on s'est tout de suite très très bien entendu, ce qui fait qu'il m'a quand même, ça je m'en suis rendu compte après quand j'ai mieux connu le métier, il m'a quand même surprotégé, parce que pour commencer, il m'a installé dans son bureau, ce qui est quand même pas très banal pour un stagiaire, puis il m'a fait faire des choses intelligentes. Au début, c'était de me faire relire tous les chapeaux de la Une, en partant du principe que si je comprenais bien, c'est que c'était clair et que tout le monde comprendrait. Puis j'ai pu commencer à écrire des petits articles, puis ensuite des articles plus importants, puis voilà.
Et dans une période, Alain Duhamel, qui justement a peu à peu changé, puisque il va y avoir les élections, l'élection présidentielle de 1965, il va y avoir une refondation de l'opposition progressive et la candidature de François Mitterrand.
Oui, alors déjà à partir de 1963, j'étais dans le métier. J'y étais de façon un peu particulière parce que je m'étais spécialisé, mais c'est de moi-même et un petit peu par méthode. Les deux choses qui me paraissaient particulièrement importantes à cette époque, qui étaient la façon dont le Parti communiste, qui était encore très puissant, allait évoluer. Est-ce qu'il allait évoluer vers ce qu'on a appelé plus tard l'eurocommunisme ou pas, ou est-ce qu'au contraire, il allait évoluer vers une forme de conservatisme involontaire? Donc je m'en suis fait une spécialité et j'ai aider Jacques Fauvet à écrire une histoire du Parti communiste en 2 tomes, qui, quand j'avais 23 ans et 24 ans, qui à l'époque est devenu le livre de référence. Et puis, j'avais compris que les sondages allaient tenir, à cause de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, une place tout à fait nouvelle. Et donc, je me suis un petit peu spécialisé dans ça. Ce qui fait qu'au moment de la campagne présidentielle de 65, là j'avais commencé à faire quand même des articles assez sérieux dans Le Monde, assez substantiels. J'ai obtenu de suivre la préparation des sondages et des opérations d'estimation avec l'IFOP, qui à l'époque dominait complètement le marché des sondages. Et donc j'étais associé à la première opération d'estimation de la présidentielle, ce qui a été à la fois un apprentissage professionnel très intéressant et une expérimentation politique que je n'ai pas oubliée.
Alors d'un point de vue médiatique, c'est aussi le moment où la campagne se déroule pour partie, pour la première fois à la télévision, sauf le général de Gaulle qui refuse d'y participer longtemps et finit par y participer...
In extremis. Oui. Bon, on voyait pour la première fois, sur la durée et de façon totalement libre, les dirigeants de l'opposition. Parce que avant, sous la Ve République, l'information publique, c'était l'information gaullienne. C'était au service du général. Bon, là, pour la première fois, on voyait François Mitterrand, Jean-Luc Canuet et d'autres moins intéressants qui disposaient de longues plages pour s'exprimer, qui le faisaient évidemment librement, pendant que le général de Gaulle boudait la campagne. Et même le général de Gaulle était furieux parce que, on disait à l'époque, la RTF, parce que la RTF avait couvert la campagne avant d'attendre l'ouverture officielle de la campagne dans le dernier mois. Et à ce moment-là, évidemment, tout a changé parce que les sondages et la télévision, leur irruption dans la vie politique, ça a évidemment façonné beaucoup de choses. Alain Perfitte, qui était le confident du général, le ministre de l'Information et un homme extrêmement intelligent, mais qui était l'intellectuel gaulliste, professionnel.
Et un ministre interventionniste.
Et un ministre hyper autoritaire, même dans des proportions qu'aujourd'hui on trouverait comiques. Tous les matins, il recevait les responsables de l'information publique, radio et télévision, pour voir avec eux les thèmes qui allaient être traités, comment ils allaient être traités et par qui ils allaient être traités. Bon. Ce qui a tout changé, c'est la campagne de 65, parce que l'opposition a existé, parce que François Mitterrand a fini par avoir quand même 45% des voix en face du général de Gaulle, ce qui était tout sauf ridicule, pour quelqu'un qui en plus n'était pas du tout populaire, François Mitterrand à cette époque-là même, qui était très décrié. Donc ça prouvait que l'équilibre politique de la Ve République était en train de se modifier, et que c'était, moi je l'ai ressenti comme ça, comme... le début de la fin du gaullisme gaullien, c'est-à-dire un début de... Bon, le personnage restait historique, surtout à mes yeux, puisque moi j'étais pour les référendums algériens, pour l'élection au suffrage universel direct du président, donc j'ai voté oui à tous les référendums, mais en même temps j'étais pas gaulliste. Et j'étais très sensible, ce qui était normal compte tenu de ce que je faisais, à l'absence même de fair play en matière d'information. Et donc ça a été la période de la métamorphose.
Alors la métamorphose, il va y avoir une année que vous décrivez comme clé, c'est l'année 67, année de votre rencontre physique avec Mendès France, année aussi de votre mariage, année où tout se profile et d'un point de vue politique, année de bascule juste avant mai 68.
Oui, parce que 67, les Français d'abord, si j'ose dire, avaient repris un peu de leur autonomie personnelle après l'élection de 65. L'élection législative de 67 qui était prévue a été gagnée par la majorité, mais d'extrême justesse, hein, ça s'est joué à 3 sièges. Donc il y avait vraiment un rééquilibrage des forces. Et puis moi, c'est cette année-là où j'ai fait la connaissance de Pierre Mendès France, qui s'était intéressé à mes articles, qui avait fait savoir qu'il serait content de me rencontrer. Donc j'avais été lui rendre visite chez lui, rue du Conseiller Collignon. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Il m'a un peu pris sous son aile. Il était content aussi que je sois admiratif, bien entendu, c'est humain. Mais surtout, ce qui est très bien, c'est que il m'a aidé aussi dans le choix des auteurs de référence pour moi. Alors, bon, Tocqueville, c'était fait. Aron, c'était fait.
Il y a eu Schumpeter, il y a eu Keynes.
Alors, voilà, Max Weber, c'est lui qui m'a dit, mais moi, c'est ce que je lis quotidiennement. Et donc, on a pris l'habitude de beaucoup en discuter. Bon, puis on discutait aussi de l'actualité politique, naturellement. Et donc, on a été assez vite assez proches.
Merci Alain Duhamel, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maëlys Besserie avec Alain Duhamel. À voix nue, réalisation Anna Schmuck, prise de son Jordan Robert, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.